Les jardinières, les jardinières.
Bienvenue chez les jardinières, c'est parti pour une heure ensemble. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Et bonjour Sandra.
Bonjour Mylène.
Émission un petit peu spéciale ce matin, puisque Sandra, vous avez quitté les studios pour vous rendre au marché à Port-en-Truy, au milieu des sapins.
Oui, je suis en compagnie d'Olivier Ribaud, paysagiste et pépiniériste à Queuve. Bonjour Olivier.
Bonjour Sandra et bonjour tout le monde.
Et on s'est réveillé tôt ce matin, on revient de la pépinière avec Olivier. Nous sommes entourés de sapins, nous sommes sur la place du marché à Port-en-Truy et il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Il y a même des sapins chiens, n'est-ce pas Olivier?
Oui, ben... des petits sapins en forme de chien.
On se réjouit.
Donc, on est en train de préparer donc, tous ces sapins fraîchement coupés.
En cette période de l'Avent, on va donc choisir son sapin. Ben, ça tombe bien, vous êtes au milieu des sapins, hein, Sandra. Quand l'acheter? De quoi faut-il tenir compte pour qu'il reste en état jusqu'à Noël? Et dans Pas de salade entre nous, on apprendra à faire son bouillon de légumes en poudre. Et puis Stéphanie, elle, s'intéressera aux questions des auditeurs.
Alors justement, pour poser vos questions... Ah, le petit jingle, hein, voilà. Pour poser vos questions, justement, c'est tout simple. Il suffit de nous envoyer un SMS. Vous tapez « jardin » suivi d'un espace et votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Et si vous avez la flemme d'écrire, vous pouvez également nous appeler au 0901 70 20 20. Ça coûte 36 centimes la minute. Il n'y a pas de questions bêtes. Elles sont toutes les bienvenues en attendant de les lire. Noël approchant, parlons de sapins. Vous êtes de ceux qui aiment Noël, qui aiment les sapins, les vrais, les costauds, les petits paramolos, les dodus, pas trop gros.
À ce propos, Stéphanie, vous êtes allée vous balader dans la rue et tendre votre micro aux passants pour leur demander comment ils aimaient leur sapin.
Illuminé, beaucoup de guirlandes.
Garni, pas trop, mais comme il faut, quoi.
Comment? Bien garni.
Alors le mien, je l'ai fait avec des fers à cheval.
Bon, en général, des boules, des guirlandes, des anges.
Bien vert.
Bleu.
Petit, pour pouvoir mettre sur une étagère, une armoire.
Oui, j'aime bien rouge ou blanc, ou voilà.
J'aime qu'il soit chaleureux et puis qu'il ait des belles couleurs.
Des décorations.
Oui.
Rosé, violet, peut-être un peu doré pour rendre un petit peu plus lumineux, justement.
Avec plein de boules et puis plein de chocolat.
Bien décoré avec de la lumière.
Lumineux. Coloré, mais pas trop.
Je mets des guirlandes.
Des boules de Noël, les guirlandes, la guirlande lumineuse. On a des petits bonbons, on met des chocolats.
Puis quelques petits accessoires, des boules ou des choses comme ça.
Traditionnellement, avec des boules en verre et des guirlandes.
Plutôt petit pour pas prendre trop de place.
Si je le prends grand, je suis obligée d'enlever toutes mes plantes. Donc j'essaye d'en avoir un moyen.
Et vous le préférez, naturel ou artificiel?
Je préfère les sapins naturels.
J'aime pas ramasser les aiguilles.
Naturel.
Je préfère naturel, mais j'aime artificiel.
Naturel.
Pour quelle raison exactement vous préférez qu'il soit naturel?
C'est plus Noël.
Je préfère l'odeur que ça dégage et la tradition, quoi.
C'est plus joli. J'aime pas ce qui est plastique et puis qui est pas naturel, qui fait kitsch, j'aime pas.
Parce que je peux aller chercher dans la forêt.
On a l'avantage d'en avoir au village.
Mais ça fait beaucoup de bordel.
Mais si on arrose, c'est comme toute chose. C'est comme quand on offre des fleurs, faut aussi les arroser.
Ça fait déjà plus vrai, quoi. On a tout... Ouais, c'est tout petit, on a toujours eu des sapins vrais sapins à la maison. Alors.
Écoutez, c'est assez plus de charme. Ça a plus de charme, c'est le naturel. Il y a assez d'un monde artificiel, il faut essayer de garder ses traditions.
Olivier, vous venez de le dire, hein, on va vous faire réagir à ce micro-trotte, donc vous dites que vous venez de le dire, on ne vous a pas entendu, vous avez dit quoi exactement?
J'ai dit que garder les sapins naturels, c'était une bonne réponse, il y a déjà assez dans notre monde d'artificiel. Donc le beau sapin naturel, c'est vrai que c'est ce qu'il y a le plus beau.
Par contre, alors on l'a pas forcément mis dans le micro-trottoir, mais les gens qu'a rencontré Stéphanie, il y en a qui nous ont dit que écologiquement, alors ils voulaient pas parce que c'est éphémère, parce que qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes?
Bien, c'est comme toute chose, le sapin de Noël, c'est une culture, donc on les plante pour Noël, on les plante pour ça, donc on les cultive, on les fait grandir depuis tout petit jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis après, ce sapin qu'on coupe pour Noël, il est fait pour ça. Si on ne peut pas l'utiliser pour Noël, on l'utilise encore des fois pour des bords de route ou des bords de trottoir. Mais après, au final, si vraiment il n'est pas beau, on doit le détruire et en remettre un autre à la place.
En tous les cas, nous, on a décidé ce matin qu'on ferait des envieux, que notre sapin serait le plus beau de tous les sapins. Et on a tout ce qu'il faut sous la main. On est à l'extérieur, donc avec vous, Olivier Ribaud, à Porrentruy.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières ont enfilé bonnet et écharpe, enfin surtout Sandra, parce que nous, on est restés bien au chaud dans les studios. Sandra, elle, est au milieu des sapins à Porrentruy avec notre invité Olivier Ribaud. Elle va tout nous dire, ils vont tout nous dire sur ces fameux sapins de Noël.
Et justement, on voudrait commencer par savoir quels sont les différents sapins qu'on peut avoir au moment de Noël.
Alors, on a tout ce qui est sapin coupé. Et on peut aussi trouver des sapins en motte, bien sûr.
Et quelles sont les différences entre un sapin coupé et un sapin motte ?
Alors le sapin coupé, bien sûr, c'est qu'on les a coupés avec plusieurs variétés qu'on verra après. Voilà. Et puis après, bien, on a aussi des sapins en motte ou en pot qu'on peut replanter, remettre en forêt ou remettre dans sa propriété pour le faire continuer de grandir par la suite.
Est-ce que la culture diffère entre ces deux sapins ?
Oui, alors bien sûr, la culture de sapin coupé, on les cultive dans des champs, on les met plantes en pleine terre, que le sapin en motte, eh bien, il est cultivé dans un pot, mais le sapin restera quand même beaucoup plus petit, et on les vend beaucoup plus petits aussi.
Alors, on l'a dit, hein, il existe différentes variétés de sapins. Alors, l'épicéa, le Nordman, le Noble, qu'on appelle le Nobilis, l'Abies procrea, le sapin bleu, le sapin floqué, le sapin rouge, le sapin blanc. Alors, on va commencer par parler de celui qui sent bon, le plus connu, le plus fréquent, qui est...
Alors, c'est le sapin des forêts, toujours. C'est le sapin blanc, qu'on trouve encore un petit peu sur les marchés. Ça devient assez rare, parce que le sapin qu'on cultive au jour d'aujourd'hui, c'est le sapin Nordman. C'est ça le plus courant maintenant. C'est celui qui gardera le mieux ses aiguilles. Puis après, il y a le sapin rouge, donc l'épicéa. C'est ces trois variétés-là. Tu en as énuméré beaucoup plus, mais c'est quand même ces trois variétés-là qui sont les plus courantes et puis les plus utilisées, notamment le Nordman.
Alors, on parle du Nordman, hein, le fameux Nordman. Mais si on commence par l'épicéa et qu'on parle de sa particularité, Olivier, quelle est-elle ?
Alors l'épicéa, c'est un sapin qu'on cultivait il y a déjà beaucoup d'années, qui est très joli, mais qui pique déjà, et puis après qui perd ses aiguilles très très vite si on le met à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'après le Nordman a pris sa place. L'épicéa, on l'utilise encore surtout pour l'extérieur, parce qu'il pousse vite, et puis on peut avoir un sapin qui coûte. Que comparativement au Nordman, il met beaucoup plus de temps à grandir, donc automatiquement, ben, on doit le vendre un petit peu plus cher, et puis il gardera ses aiguilles toute la saison de Noël.
Alors, vous l'avez dit, hein, Olivier, il perd ses aiguilles facilement. Est-ce que c'est à cause de la chaleur intérieure ? Et puis, si on ne veut pas passer l'aspirateur tout le temps, est-ce qu'il y a une solution pour pallier à ça ?
Alors, pour un épicéa, non. Vous pouvez bien sûr l'arroser, vous pouvez le sprayer un peu. Il y a toutes sortes de petites choses qui font qu'on dit que ça gardera ses aiguilles plus longtemps. Le plus important, c'est qu'il soit déjà coupé frais. Ça, c'est déjà le plus juste. Mais après, un épicéa, même qu'on l'on fera tout ça, il va perdre ses aiguilles au bout de 15 jours, 3 semaines. Et puis, tout va tomber.
Donc, du coup, même de l'acheter à la dernière minute, ça ne changera rien.
Si vous voulez le garder 15 jours, 3 semaines à l'intérieur, vous pouvez l'acheter à la dernière minute, mais quand vous le démontrez, les aiguilles vont tomber.
Pour quelle galère !
Alors ça, c'est pour les défauts de l'épicéa, on vient de le dire, mais il a des qualités, cet épicéa. Et c'est son odeur. Alors pourquoi cette sorte-là diffuse plus qu'une autre ?
Alors l'odeur de l'épicéa est déjà... Oui, ça se diffuse bien. Par contre, le sapin blanc, l'Abies alba, le vrai sapin des forêts qu'on a chez nous, est encore plus parfumé. Et celui-là, il est beaucoup plus résistant, il gardera ses aiguilles beaucoup plus longtemps. Nos grands-parents l'utilisaient beaucoup pour mettre les vraies bougies dessus, parce que c'était un sapin qui faisait des larges branches et on pouvait mettre encore les vraies bougies, ce qui ne se fait plus maintenant, parce que c'est interdit de mettre des vraies bougies sur un sapin Nordman. Puis ben, le sapin Nordman est plus touffu, plus solide, plus joli. Donc on vend quasi plus que du sapin Nordman.
Olivier, c'est interdit par la loi ?
Alors c'est interdit de mettre des bougies, des vraies bougies sur des sapins Nordman, oui je crois par la loi. Et puis surtout parce que c'est très dangereux. Donc
c'est bon à savoir.
C'est interdit de mettre de la bougie. Parce que sapin Nordman a beaucoup de sève et s'il prend feu, ça va très très vite. Donc c'est vraiment pas à faire.
Ok.
Mais alors, si on veut en mettre des bougies, quel sapin faut-il choisir ? si on veut braver des interdits, puisque finalement les interdits dans la vie c'est fait pour ça, pour les braver. Si on veut braver cet interdit, qu'on veut absolument garder la tradition, on veut mettre des bougies parce que ça se voit encore, il y en a quand même qui le font, même si c'est interdit. Quel sapin faut choisir ?
Alors il faut rester vigilant, il faut mettre un sapin blanc, donc c'est le vrai sapin des forêts, avec peu de branches, et puis on met quelques bougies, et puis on le surveille, on reste à côté quand les bougies sont allumées, bien sûr.
Alors ce matin, quand on est allé dans la sapinière, hein, comme on l'appelle, vous m'avez dit, alors là il y a un sapin blanc, là il y a un sapin rouge, ça c'est le sapin bleu, mais en fait ils étaient tous verts. Pourquoi ces noms de couleurs
Alors chaque sapin a un nom latin, donc le sapin blanc c'est un Abies alba, donc alba, blanc, et surtout parce que si on regarde un sapin blanc, le dessous des branches il paraît blanc, et c'est pour ça. Et puis si on l'a toujours nommé sapin rouge, parce que voilà, puis le sapin bleu, ben, il est bleu quand même, il est gris-bleu, quand on le voit, il est bleu. Mais en principe ils sont tous verts, mais des verts différents, mais c'est des noms qu'on leur donne.
Alors moi je reviens à ces fameuses aiguilles, hein, ceux qui piquent, qui font fuir les chats et les enfants. Mais je reviens au Nordman, vous l'avez dit, qui ne perd pas ses aiguilles, qui est celui qu'on achète le plus, que les gens achètent le plus. Ce Nordman, à part le fait de bien conserver ses aiguilles, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre ?
Alors c'est un sapin qui est très touffu, qui pousse bien maintenant sous nos régions, parce que ça fait quand même des années qu'il est maintenant implanté dans les régions de Suisse. Donc, et puis c'est un sapin qui a une belle couronne, une belle forme, donc c'est vraiment le joli sapin régulier qu'on peut trouver sans problème. Exactement.
Et puis les sapins en pot, hein, comme vous en avez également, leur particularité c'est de les replanter, mais au niveau de perte d'aiguilles, au niveau de chenilles, comme on dit, c'est plus pratique.
Alors un sapin en pot, parce que bien sûr c'est aussi des Nordman, c'est plutôt pour l'idée de le replanter pour pas le couper. Comme on disait au début, les sapins c'est des cultures, donc automatiquement on les plante pour Noël, on est obligé de les couper. Puis si on ne les coupe pas parce qu'ils sont pas jolis, ce qui arrive souvent, hein, parce qu'il y a quand même 20 à 30% de déchets dans une culture de sapin, donc on va les couper, les broyer, les passer en compost, et puis après ça on en replante des nouveaux. Mais il y a des gens qui aiment bien ne pas couper un sapin, donc ils l'achètent avec des racines, puis après ils vont le replanter dans leur jardin, ou ils le gardent 2-3 ans en pot pour l'utiliser 2 ou 3 fois pour Noël.
Alors nous, sur les jardinières, on est des filles, des vraies. Et oui. Mylène, elle, oui. C'est une fille, elle aime les poneys, les licornes.
Et les paillettes.
Elle a une question pour vous. Elle a une question
oui,
pour vous.
Oui, alors vous avez parlé de ces différentes sortes de sapins. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils sont enneigés artificiellement. Ça donne un petit côté, un petit côté Noël. Hein. Comment il s'appelle, ce sapin-là ?
Alors, c'est, je pense, comme on voit sur les plateaux télé, les beaux sapins floqués qui sont tout blancs, oui, recouverts de neige artificielle.
Voilà, je pense que ça ne pousse pas dans le jardin, la neige artificielle.
Non, bien sûr, c'est floqué, c'est de la paraffine et puis des petits cotons de ouate qui sont giclés dessus et puis qui recouvrent les aiguilles, donc ils se collent sur les aiguilles. C'est sapin
donc,
floqué.
Alors, ce n'est pas 100% naturel, mais si c'est collé, ça veut dire que les épines, elles ne vont pas tomber ? Où je me fais des idées.
Oui, c'est vrai, ils ne vont pas tomber. Ça fait un amas autour de l'aiguille, puis le sapin, les aiguilles vont rester sur le sapin beaucoup plus longtemps.
Et celui-là, il brûle aussi avec les bougies.
Ah oui, encore plus, je pense, parce que c'est de la paraffine, c'est de la bougie fondue avec de la ouate. Donc oui, ça brûle. Il faut rester vigilant, il faut mettre des guirlandes électriques au jour d'aujourd'hui, ne pas utiliser de bougies sur des sapins, c'est interdit.
Ne pas jouer avec le feu. Merci Olivier, à 7h40, on apprendra à choisir son sapin. Mais avant, on se tourne vers Stéphanie qui a reçu du courrier pour vous, Olivier.
Eh bien oui, le facteur est passé, les filles. Et puis je peux vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions. Vous pouvez le faire donc, toute la semaine via notre formulaire en ligne, mais également pendant l'émission, donc maintenant jusqu'à 8h. Olivier, on va directement donc solliciter vos connaissances, parce que nous avons reçu cette question d'Hélène de Boncourt. Alors on en a déjà parlé tout à l'heure, mais peut-être le répéter en deux mots. Elle nous demande, par souci d'écologie, est-ce possible de se procurer un sapin en pot et de le replanter ensuite ?
Alors oui, bien sûr, on disait c'est le facteur qui a amené le courrier, on aurait préféré le Père Noël. Mais...
Oui, c'est peut-être le Père Noël, hein, peut-être la prochaine fois.
Alors oui, c'est ce qu'on a dit avant, un sapin où on peut trouver des sapins en pot au jour d'aujourd'hui, et puis vous pouvez les replanter en forêt. Il faut pas oublier que quand vous achetez un sapin et que vous allez le replanter, c'est un sapin qui vient grand. Les sapins de nos forêts viennent grands, donc pas le planter n'importe où.
C'est ce que je voulais vous demander, justement. On ne peut pas trop le replanter dans notre jardin.
Alors, si on a un grand champ, un grand jardin, une grande propriété, ou sinon, le replanter en forêt, mais pas les planter trop près des maisons, parce qu'après, ils vont venir très, très grands. Ça peut venir jusqu'à 10-15 mètres de haut.
Ah ouais, ça peut vite devenir envahissant.
À moins d'après le tailler, une fois qu'ils ont une certaine grandeur, mais faites attention où le replanter.
On a également reçu cette question de Michel de Neuchâtel qui nous demande « Le choix du sapin peut-il se faire en fonction de la taille de notre habitation, car j'habite dans un petit appartement avec peu de lumière ?»
Oui, alors bien sûr, le sapin, s'il n'a pas beaucoup de place, il faudra choisir un petit. Et puis un petit sapin Nordman va automatiquement être plus joli qu'un petit épicéa, parce que souvent, les petits épicéas, ils ne sont pas très fournis, ou même les sapins blancs sont moins fournis. Un épicéa, même petit, il est déjà joli.
Oui, c'est vrai qu'il faut regarder aussi là-dessus. Merci beaucoup Olivier pour toutes vos réponses, vos questions. Je vous rappelle, on les reçoit par SMS au 939, vous notez jardin, un espace suivi de votre question, ou alors au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. On se retrouve donc dans quelques minutes pour la suite en compagnie d'Olivier Ribaud qui est donc en pleine ville de Porrentruy avec Sandra au milieu des sapins. Le temps pour nous de faire un petit détour par la météo et par les inforoutes.
7h 8h, les jardinières. Les jardinières.
On se prépare pour les fêtes de Noël ce matin chez les jardinières, plus particulièrement avec Sandra et ses sapins. Sandra, elle est à Porrentruy, au marché, en compagnie d'Olivier Ribaud, paysagiste et pépiniériste à Queuve. Ce matin, il a revêtu son habit de pépiniériste. Il va tout nous dire concernant les sapins.
Mais avant ça, je vous rappelle qu'on attend vos questions par SMS. Vous tapez jardin, vous laissez un espace et puis vous notez votre question. Vous nous envoyez le tout au 939 et puis vous pouvez également nous appeler au 0901 70 20 20 au prix de 36 centimes la minute. Et voilà, donc on attend vos appels jusqu'à 8h. On se réjouit.
Sandra, vous êtes au marché à Porrentruy entre les sapins et notre invité Olivier Ribaud. Vous n'avez pas trop froid ?
Alors non, parce qu'Olivier a fait du feu, mais alors par contre, il faut qu'il nous explique, hein, parce qu'il y a tout, il y a des machines, il y a plein de choses, il n'y a pas que des sapins, il y a des choses un peu bizarres là au milieu. Il faut que vous nous expliquiez, Olivier, c'est quoi ces appareils là que vous avez pris avec ?
Alors, les appareils qu'on a, c'est tout simplement pour tailler le pied du sapin, parce que c'est toujours un problème aujourd'hui avec les sapins Nordman, qui sont des sapins qui poussent assez lentement. Donc, il leur faut en tout cas 8 à 10 ans pour arriver à une hauteur d'1m50, 1m80 de haut, donc pour faire un beau sapin. Mais pendant ces 10 ans, le sapin, il va aussi faire un gros pied, donc un gros tronc. Et puis, il y a une dizaine d'années, sur le marché, en faisant des sapins pointus pour les gens, je me suis coupé un doigt avec une serre, parce que c'était pas... Alors maintenant, on a acheté une machine où on pousse le pied du sapin dedans. On appelle ça un taille-crayon. Puis comme ça, ça taille le pied. Et puis après, il rentrera plus facilement dans le pied de chaque client. Bon, il faut savoir qu'un pied de sapin, on le taille par rapport au pied que vous avez. Maintenant, il existe aussi des pieds qui se tendent avec un câble. Donc ça, c'est bien. Et là, on taille pas le pied du sapin parce que c'est un peu comme une fleur coupée. Un sapin, quand vous l'achetez, ce qui serait le bien, ce qui serait le mieux, ce serait de le recouper frais quand vous arrivez à la maison, d'enlever 2-3 cm du bout du tronc pour le mettre dans votre pied sans le plaie, si vous avez un pied assez grand justement, pour que vous puissiez y mettre de l'eau. Puis c'est comme ça qu'il pourra boire de l'eau puis garder sa fraîcheur après jusqu'à Noël.
Alors avant, hein, on était dans la pépinière, enfin dans la sapinière, comme on l'appelle, avec vos ouvriers qu'on a perdus d'ailleurs, hein, on les attend. Et puis, on a vu, il y avait plein de sapins. Mais comment il naît ce sapin ? Parce qu'il y en avait toutes les grandeurs, toutes les hauteurs. Comment il arrive, comment vous avez fait pour arriver à avoir autant de sapins, que ce soit prêt, enfin ?
Alors les sapins de Noël qu'on plante, en fait c'est des jeunes plants qu'on achète chez un pépiniériste qui fait que ça. Mais à la base, il est né de pives. On prend des pives qu'on va récolter, qui vont en faire des graines, qui vont être semées. Et puis, pour avoir un jeune plant de sapin qui est bon à planter, eh bien, depuis la pive jusqu'au jeune plant, il faut au minimum 3 à 4 ans déjà pour faire un jeune sapin que nous, on va recevoir, puis qu'on va planter dans les champs, comme vous l'avez vu avant, l'un derrière l'autre, et puis qu'après, on va entretenir pendant 10 ans. Donc, faut savoir que sapin, c'est pas juste planter, puis oublier pendant 10 ans, puis qu'après, on va chercher la tronçonneuse, puis on coupe. Il faut les nettoyer, il faut faucher l'herbe pour qu'ils aient de la place pour grandir, puis qu'ils puissent venir jolis. Et puis après, en même temps, on doit aussi, des fois, les sapins, ils font deux têtes, ou ils ont une branche qui part trop à gauche ou trop à droite. Donc pendant l'été, on passe, on les taille, on coupe un peu à gauche, à droite, pour que lui donner cette forme qui reste rond, qui reste beau, pas trop large. Même qu'avec tout ce qu'on fait, ça arrive des fois qu'il y en a qu'on ne peut pas prendre parce qu'ils ne sont pas assez jolis.
Ouais. Est-ce qu'il y a une taille standard pour le sapin ?
Alors le sapin de Noël au jour d'aujourd'hui a diminué un peu de grandeur parce que dans le temps on vendait des sapins entre 2 et 3 mètres parce que les pièces étaient très grandes. Mais une taille standard c'est une taille d'une personne, donc entre 1,50 m et 2 mètres maximum, c'est le sapin le plus vendu.
Et puis est-ce qu'il y a des effets de mode d'une année à l'autre ? Est-ce que vous avez des demandes particulières ?
Alors l'effet de maintenant, c'est un petit peu ce qu'on a parlé avant, le sapin avec des racines pour le replanter, pour avoir le petit côté un peu écologique pour ne pas les couper. On en revient aussi déjà assez parce qu'on sait qu'arracher un sapin qui a été 10 ans dans une culture, puis le mettre dans un pot, le mettre dans un appartement à 20, 25 degrés pendant un mois, c'est un petit peu comme nous quand on le ressort, il ne va pas repartir parce qu'un sapin en hiver... Il se met dans une période de repos. Donc ça veut dire que la sève, elle s'arrête un peu et puis vous allez le mettre au chaud. Donc il va rebourgeonner. Des fois, on trouve ça rigolo. On y remet encore un peu d'eau pour qu'il fasse vraiment un beau petit bourgeon. Mais automatiquement, quand on le ressort après au froid, ben, ce bourgeon gèle. Et puis on a décalé son cycle de végétation. Allez, voilà, on les a retrouvés.
C'est l'avantage d'être dehors, c'est que tout le monde, alors on fait vivre, hein, ce qu'on les voit là, c'est bon, ils arrivent avec le camion, quand on dit les voilà, c'est les fameux ouvriers que nous avions perdus. Oh là là, ils arrivent avec des camions, il y a une ambiance du feu de Dieu à Pont-Ventry. Donc, pendant qu'ils s'installent, non, c'est incroyable, il y a des sapins, mais il y en a combien ?
Ouais, c'est quand même le week-end qui est le plus grand pour nous pour vendre les sapins, parce qu'on est quand même à 15 jours de Noël. Donc je pense qu'on en a, on compte pas, on prend et puis après on met.
Vous allez rechercher
un peu plus. Après on va rechercher quand il y en a plus.
Alors ouais, ça il faut le dire, hein, ça fait depuis jeudi que vous sciez, que vous coupez, que vous n'arrêtez pas donc. Hein, alors là on est envahi de sapins. Eh ben, comme ils arrivent, on va les laisser s'installer tranquillement et puis peut-être qu'on va en profiter pour aller voir Stéphanie si elle a reçu un peu de courrier.
Ben oui, c'est votre émission, vous avez la possibilité de poser des questions sur tous les sujets et puis aussi sur les sujets qui concernent le sapin, donc notre sujet principal de ce matin. Olivier, je vous réquisitionne encore pour une question. Alors là aussi, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vous la pose quand même. C'est Émilie de Cul-de-Refin qui nous demande « J'aime bien mettre de la neige artificielle sur mon sapin, mais est-ce que ça peut le dessécher beaucoup plus rapidement ?»
Non, pas du tout, parce que je pense qu'elle met des petits flocons paillettes qu'elle va parsemer sur le sapin, donc ça ne changera rien à la tenue des aiguilles du sapin. Il faut toujours savoir que dans tous les pieds, normalement, on peut mettre de l'eau, donc c'est bien de le contrôler une fois de temps en temps, parce que des fois, on met l'eau au début, et puis après, on oublie dans un pied de sapin, mais l'eau s'appelle la bois, donc il faut contrôler qu'il y en ait toujours au fond.
Donc le fait d'avoir de la neige artificielle et puis voilà, des décorations, non. Ça ne va pas du tout influencer
ça
sur...
Ça ne changera rien, non.
Ok. J'ai encore une petite question de Marie-Jo du Val-de-Rue qui nous demande « Comment être sûr que le sapin que l'on jette sera recyclé correctement ?» Voilà. Est-ce qu'il faut le mettre à un endroit particulier ? Est-ce que, voilà, comment on peut s'assurer de ça ?
Oui, alors c'est une bonne question. Les sapins, maintenant, après Noël, ben, il faut s'en débarrasser. Donc... Il y a, en principe, dans chaque commune, dans chaque endroit, il y a soit la place de compostage, soit il y a même des tournées de ramassage exprès dans les grandes villes, comme ici à Porrentruy ou à Adlémont. Il y a une date qui est donnée pour que les sapins soient récupérés, puis après ils sont broyés, puis soit ils sont mis au compost, donc ils vont faire du compost, ou soit ils vont être mis en copeaux, puis ils vont être incinérés dans des chaufferies maintenant qu'on utilise pour les copeaux pour se chauffer.
Donc encore une fois, c'est pas forcément nécessaire de prendre un sapin artificiel pour vouloir être écologique, on va dire.
Non, parce que le sapin, après sa vie de Noël, eh ben, il va être justement broyé, puis réutilisé pour les chaufferies.
Et puis on va un petit peu s'évader du thème des sapins. Pendant une petite seconde, Olivier, si vous êtes d'accord, on a reçu une autre question qui concerne les bonsaïs. Je vous la pose. J'ai acheté un bonsaï d'une taille d'environ 1 mètre et après plusieurs jours chez moi, il a commencé à perdre ses feuilles, à se dessécher. Que puis-je faire? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation pour les bonsaïs? C'est Sarah De Vic qui nous demande ça.
Ok, je pense qu'elle a acheté un bonsaï intérieur, donc justement c'est un ficus. Et s'il a perdu ses feuilles, c'est qu'il a eu un choc de température, soit pendant le transport, soit chez elle, ou peut-être un courant. Donc c'est une plante qui est sensible, les ficus, à ce genre de choses. Donc le temps d'adaptation, c'est qu'il faut faire attention, pas qu'il ait soif, pas qu'il ait trop d'eau non plus, pour qu'après qu'il puisse refaire des bourgeons, pour refaire une poussée de feuilles, pour qu'il puisse redémarrer. Donc moi je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, mais il faut attendre que les bourgeons reviennent puis qu'ils refassent des feuilles.
Et vous préconisez de l'arroser à quelle fréquence ?
C'est une plante d'appartement, il faut faire attention, il faut plutôt contrôler le terreau, la terre qu'il y a dans le pot, le toucher. Si quand on touche le terreau d'une plante verte qui est dans le pot, on sent l'humidité sur les mains, eh bien il est assez mouillé. Si c'est sec, eh bien, c'est là qu'il faut y remettre de l'eau. Donc c'est pas dit tous les semaines ou tous les deux semaines, mais c'est plutôt l'humidité qu'il y aura dans le pot qui définira combien de fois on va l'arroser.
Merci beaucoup Olivier. Vous pouvez donc poser vos questions toute la semaine via notre formulaire en ligne, mais également pendant l'émission. Donc maintenant, jusqu'à 8h par SMS, donc au 939, vous nous envoyez jardin suivi d'un espace avec votre question. Alors avant de retourner au milieu des sapins, on fait un détour par la cuisine. Mylène, pour notre plus grand plaisir, vous vous mettez au fourneau.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
On va laisser le sapin de côté quelques minutes avant de retourner en compagnie de Sandra. On va vous parler du bouillon. Tout le monde utilise du bouillon. C'est bon, c'est pratique pour parfumer nos différents plats. Mais le bouillon qu'on achète n'est pas conseillé pour la santé. D'une part, parce qu'il contient parfois de l'huile de palme, BERC, des exhausteurs BERC, ou des conservateurs BERC encore une fois. Mais surtout parce qu'il contient beaucoup trop de sel. Et puis suivant la marque, avec 2 cubes pour assaisonner votre soupe, vous êtes déjà au-dessus de la quantité de sel recommandée par jour. C'est pourquoi je vous propose d'apprendre à faire votre bouillon vous-même avec des légumes de saison que vous avez récoltés dans votre jardin ou achetés au marché. Et pas de bouillon liquide à congeler en cube qui prend toute la place dans votre congélateur, non, du bouillon en poudre pratique, arrangé, facile à conserver. Il nous faut 2 carottes, un céleri, un poireau, une gousse d'ail, 2 oignons, du gros sel, du poivre, du romarin, du thym ou toute autre épice à votre goût. On lave bien tous nos légumes, on découpe nos carottes en fines tranches avec un économe sans jeter la peau. On épluche le céleri, on jette la peau cette fois, et on découpe aussi à l'économe. On coupe le poireau en tronçons de 2-3 cm, la gousse d'ail est épluchée et coupée en petits bouts, et l'oignon, on lui laisse la peau et on le coupe en morceaux. On met tous ces légumes dans une casserole sans matière grasse et on ajoute un peu moins de la moitié de leur poids en gros sel. Reste à poivrer et garnir de romarin et de thym. On fait cuire une dizaine de minutes à feu fort et puis on baisse le feu, à feu moyen, et puis on cuit encore 10 minutes en touillant de temps en temps pour pas que ça attache à la casserole. Après la cuisson, on répartit ces légumes en une couche assez fine sur une plaque pour le four recouvert de papier sulfurisé. Et puis si la couche de légumes paraît un peu trop épaisse, on peut mettre sur 2 plaques ou 3, hein, comme vous voulez. On enfourne nos plaques dans un four préchauffé à 60 degrés pendant environ 5 à 8 heures. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. C'est pour faire sécher vos légumes. Et puis en fin de cuisson, vos légumes doivent être secs et l'humidité envolée pour se rendre compte que c'est bien sec. Il vous suffit de toucher et puis on sépare bien les légumes, vous verrez c'est tout sec, ça colle plus. Une fois la cuisson terminée, il faut encore mixer les légumes pour obtenir la poudre et tada, votre bouillon est prêt. On le conserve dans des petits pots en verre, c'est le pot de confiture, et puis ça tient au moins 2 mois si c'est bien sec. Ça fera un joli petit pot à mettre sous le sapin de Noël, non ?
Les jardinières, pas de salade entre nous.
On va retrouver Sandra au milieu des sapins. Je crois que les ouvriers sont avec vous cette fois-ci.
Oui, alors il y a Joanne et Maxime. Alors Maxime est timide, il continue de décharger. Par contre, Joanne est là. Joanne, bonjour.
Bonjour.
Alors Joanne, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le samedi matin pour couper des sapins ?
Alors, on va dire que c'est pas vraiment un travail qu'on fait comme toute la semaine, quoi. C'est l'ambiance est plus conviviale. C'est plus sympa, on voit beaucoup plus de gens, on parle avec les personnes, c'est plus agréable, on va dire.
Ça fait partie de la magie de Noël aussi.
Aussi.
Alors, depuis jeudi, vous coupez, hein, on l'a dit, vous coupez, vous sélectionnez tous vos sapins. Quels sont justement les critères de sélection ?
Alors, quand on va couper, on regarde que les sapins, ils aient déjà une belle forme, qu'ils soient jolis. On va dire que les personnes qui viennent en acheter, c'est la première chose qu'ils regardent, quoi.
Alors là, moi, j'étais en compagnie d'Olivier, et puis pendant ce temps, ben, vous avez continué de les couper et puis de les charger. Est-ce qu'il y a des choses impératives à respecter ?
Alors, impératives, on va dire pas vraiment, quoi. Juste, comme je vous ai dit, que les sapins soient jolis, qu'il n'y ait pas de branches de cassées, et voilà, quoi.
Alors, on l'a dit, on sent que cet exercice ce matin, il fait partie d'une tradition. C'est une évidence pour vous de vous retrouver avant les fêtes pour couper des sapins. Mais il y en a une autre de tradition aux alentours de midi. Quelle est-elle ? Qui fait partie hein, de votre job. Et c'est quoi cette tradition ?
Ah ben on va dire la fondue quoi. La fondue est sans oublier le vin chaud. Mais bien sûr le vin chaud on va dire avec modération parce qu'on n'est que samedi midi.
Merci Joanne.
Olivier, moi j'ai juste continué. Une question, Sandra, là, il est 8h moins 10, le soleil n'est pas encore levé, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus choisir les sapins pour avoir le plus beau ?
Non, pas encore, mais bon, il est même pas encore 8h, donc les gens vont arriver gentiment.
Il y a des gens, des fois, ils sont au taquet, hein, comme on dit, dans les centres commerciaux avec leurs chariots. Alors, je sais pas si au marché, c'était pareil, où on attendait avec impatience les sapins d'Olivier.
Alors, non, ils sont encore pas là, mais on a déjà allumé le feu, donc ils vont pas tarder.
Olivier, on va continuer de parler de ces sapins. On pourra en parler, merci beaucoup hein, Joanne, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il y a encore une chose à dire, c'est que ces sapins, vous les emballez. Hein. Il y a votre machine là, pour les emballer. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas les emballer parce que, par souci d'écologie ou parce que ça pourrait les abîmer ?
Alors oui, l'emballage du sapin, c'est devenu quelque chose, vous voyez ça partout maintenant. Quand vous achetez un sapin, on vous le met dans un filet. Donc c'est devenu, il y a, je ne sais pas, maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est un tube, on pousse le sapin dedans. C'est pour rétrécir les branches et puis pouvoir le transporter, que ce soit beaucoup plus pratique. Donc déjà, vous le mettez dans la voiture. Et après, pas oublier que quand vous arrivez chez vous, si vous achetez un grand sapin, vous pouvez l'installer avec le filet, l'emmener là où vous voulez le mettre, et puis après, relever le filet à rebrousse-poil, et puis il va se déployer là où vous en avez besoin.
Sans se déformer.
Sans se déformer, sans se casser. Au contraire, vous allez, si on les emballe, c'est pour éviter de les casser.
Et puis, il y a une chose aussi qui est très importante, vous y veillez, je suppose, c'est quand on les voit là sur le trottoir, on a toujours l'impression qu'ils sont petits. Est-ce que dans les demandes, vous signalez quand même aux personnes qu'il faut tenir compte de son appartement, hein, d'où on va le mettre ? Parce que quand ils sont comme ça, là, exposés, on ne se rend pas forcément compte.
Oui, tout à fait. C'est quand on voit un sapin dans la rue, ou bien même nous, quand on va les couper dans le champ, tout ça... Quand on les voit, on se dit « Ah, il est beau, on le prend ». Mais souvent, ils sont beaucoup plus grands qu'on on en a la place pour les mettre. Ça m'est encore arrivé hier, j'en ai livré un chez quelqu'un. Je n'ai pas estimé assez bien la hauteur et puis j'ai dû aller changer parce que franchement, il était beaucoup trop grand. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, mais on a une mesure, on mesure les sapins. Des fois, les gens ils viennent, ils disent « il me faut 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 50 ». Et puis on les mesure et puis on regarde le sapin qui va... pour l'endroit de chacun.
Olivier, on va bientôt clôturer.
Oh, j'ai juste une question de taille de sapin. À part les sapins qu'on vend en extérieur, est-ce qu'on vous a déjà demandé un immense sapin pour l'intérieur? Genre la personne qui aurait, je sais pas, un manoir et qui veut se la jouer, j'ai un immense sapin de Noël.
Ah oui, alors j'ai une belle petite anecdote de cette année déjà. Une maison neuve qui a été construite l'année passée. La dame m'a demandé un sapin de 4 mètres, j'ai regardé, j'ai fait des gros yeux, j'ai dit « Oui, mais vous êtes sûr ?» Puis elle me dit « Mais pas de problème, même 5, je l'ai revu l'autre jour, elle m'a dit « L'année prochaine, il faut mettre un mètre de plus. » Il fait 4 mètres, 4 mètres 50 à l'intérieur, oui, sans problème.
Incroyable.
À l'intérieur, donc, en plus.
Donc on va juste récapituler, donc il n'y a pas forcément de taille standard, hein, vous venez de le dire, c'est à la demande. De quoi faut-il tenir compte alors quand on choisit un sapin ?
Eh ben, comme mon employé l'a dit avant, qu'il soit joli, qu'il ait des branches. Il faut savoir qu'un sapin, il a toujours un côté moins chargé que l'autre. Ça, c'est la nature, parce qu'il poussera plus du côté du soleil que du côté ombre. C'est-à-dire que la journée, quand il a le soleil, eh ben, son système de branches se développe plus d'un côté que de l'autre. Mais on utilise le côté qui est moins chargé pour le mettre contre le mur, contre le canapé ou dans l'angle de la pièce. Puis après, ce qui diffère, eh ben, c'est la hauteur. Alors, il y en a qui en veulent des plus hauts, des plus petits. Il y en a qui les mettent sur des tables. Donc, c'est à choix. C'est la hauteur qui définira après le sapin.
Et puis, la toute dernière, c'est qu'un sapin, ça s'arrose.
Alors oui, ça s'arrose, justement, comme on l'a dit avant, c'est de bien de mettre de l'eau dans le pied. Et puis, je répète, ceux qui peuvent et qui ont la possibilité, c'est de le recouper, enlever 2-3 cm du pied du tronc avant de le mettre dans l'eau. Il boira mieux, parce que nous, quand on les déplace, on les tape par terre des fois et le fond du bois vient écraser. Donc c'est comme une rose, c'est comme une fleur. Si vous le recoupez propre, eh ben l'eau passera plus facilement et puis il boira beaucoup plus. Il faut savoir que ça peut, quand vous le mettez dans l'eau, il va boire beaucoup pendant 1-2 jours, puis après il boira plus beaucoup pendant le reste du temps. Il boit toujours un bon coup au début, puis après ben, ça se calme. Mais c'est différent d'un sapin à l'autre, c'est pas pareil.
Et puis donc, quand les fêtes sont finies, qu'il ne reste plus que le papier d'alu, hein, qu'il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus rien, quand on l'a enlevé, quand on enlève toutes les décorations, on en fait quoi ?
Eh bien justement, comme la dame l'a demandé avant, ben on le démonte, on enlève toutes les parties plastiques, guirlandes et tout. Et puis ben, soit on le met au ramassage dans la ville ou dans la commune, ou soit on l'emmène au compost. Et puis là, il sera broyé, il sera recyclé, puis il va partir comme un déchet vert.
Ben voilà, je crois que tout est dit, donc on est prêt pour... ce sapin de Noël, on a toutes les informations nécessaires pour faire le plus beau sapin, grâce à vous Olivier. Olivier, un grand merci de nous avoir accueillis au milieu de vos sapins. Et puis, bah, le dernier mot, il est pour vous.
Eh ben, merci à vous. Et puis, comme vous le dites, le jour se lève sur Porrentruy, le soleil est arrivé, donc on vous attend. À 10h, le vache vous sera prêt, donc on est fin prêt.
Eh ouais, comme on l'a dit. Alors les jardinières, eh bien, ça s'arrête. Hein, le mot de la fin, ben, on va le laisser donc à mes deux jardinières qui seront de retour la semaine prochaine.
Eh ben, alors moi, j'avoue, je ne serai pas là la semaine prochaine.
Mylène, vous ne serez pas là.
Non, voilà. C'est moi qui vous. Je vais fêter Noël en avance, voilà. Mais la semaine prochaine, il y aura Sandra et Aileen et vous nous parlerez des jardins d'hiver, voilà.
Et puis, ben, si vous avez d'ores et déjà des questions, elles sont les bienvenues, toujours via notre formulaire sur nos sites, donc RFJ, RJB, RTN. Et puis, vous retrouvez donc notre émission sur la page des jardinières. Passez un excellent week-end et à samedi prochain.
Au revoir.
Au revoir.
7h, 8h, les jardinières.